Écoutez, là, la situation a pas mal évolué en quelques heures. Ces derniers jours, les bombardements continuaient, hein. Il y avait des bombardements jusqu'à ce matin, très tôt. Et puis ça s'est tu, les bombardements se sont tus, donc depuis quelques heures. On en entend de temps en temps, mais c'est très épisodique. Aujourd'hui, on n'entendait pas grand-chose, donc ça veut dire qu'a priori, la partie est de... qu'on appelait Alep Est est en train de voilà les gens sont en train de partir quoi, donc c'est en train d'être évacués, donc voilà. Mais ces derniers jours, le cessez-le-feu qui était annoncé en fait volait en éclats, ça, les combats s'arrêtaient puis reprenaient.
Là, vous vous trouvez donc Alep Ouest, quelle est la situation?
Alep Ouest, en fait, la vie a repris, la vie reprend, les gens sortent, les enfants allaient à l'école, la vie continuait déjà pendant la guerre, hein. mais là, je dois dire que en quelques heures, la vie reprenait vraiment de plus belle, quoi. Il y avait les gens sortaient, prenaient la voiture, voilà. Donc surtout les routes se sont ouvertes entre tous les barrages qui existaient il y a 48 heures se sont levés. Donc aujourd'hui, on avait accès à toute la partie qui était occupée par les rebelles. Donc on pouvait aller jusqu'à l'aéroport, par exemple. On pouvait aller dans certains quartiers qui étaient fermés jusqu'ici. C'était assez impressionnant de suivre un peu les gens qui n'avaient pas revu leur maison depuis 5 ans, par exemple. 4-5 ans, tous les déplacés de ces zones-là qui avaient quitté la partie est de la ville pour aller vers l'ouest, qui revenaient voir un peu l'état de leur maison, souvent détruite ou pillée.
On est confronté à deux types de réactions, même dans la rhétorique, dans les mots utilisés. Certains parlent de chute d'Alep, de mort d'Alep, d'autres parlent de libération, justement. Comment sont vécus les événements par les habitants que vous côtoyez?
Les gens sont soulagés, quoi. Ça fait 4 ans qu'ici, c'est la guerre. Il y a des obus qui tombent des deux côtés. Aujourd'hui, ils peuvent sortir dans la rue sans craindre de recevoir un obus ou un morceau de métal d'une bombe éclatée. Je crois que c'est ça d'abord, hein, la première chose. Après, qu'on parle de libération ou de Alep est tombé, je pense que c'est d'abord ça. Les gens prennent pas position. Si les gens voulaient juste la paix, hein, c'est tout ce qu'ils demandent. Les gens vivaient dans la terreur, hein. Moi, je suis admiratif de ces Alepins qui, au quotidien, ont vécu avec la peur de recevoir une bombe et puis dans des conditions extrêmement difficiles avec le manque d'électricité, d'eau, aujourd'hui de chauffage pendant l'hiver.
Et comment les Alepins envisagent-ils l'avenir à présent?
Vous savez, en fait, là, j'ai l'impression que les gens ici ont vraiment vécu dans une logique de survie. Donc pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'était difficile de se projeter dans l'avenir. On dit que ça s'arrête, mais qu'est-ce qui va arriver derrière? Ça, les gens ne le savent pas. On n'est pas sûr que tout s'arrête. Peut-être que dans quelques heures, les bombardements peuvent reprendre. Maintenant, il y a un travail énorme, c'est sûr, à faire en termes de nettoyage, de reconstruction. Reconstruction de la ville, reconstruction des personnes humaines. Et aussi un peu la réconciliation. Hein. C'est un peuple qui a été quand même brisé. Les gens ont été brisés, les gens sont fatigués d'ailleurs. On dit que c'est la fin des combats, mais là, ce matin, j'étais dans la partie, disons, libérée de la ville. Alep Est, et déjà on voyait il y avait l'armée syrienne, donc l'armée du régime, et puis il y avait aussi des milices iraniennes, des milices du Hezbollah, il y avait le YPG, donc les Kurdes qui prenaient position dans la ville, donc j'avais l'impression qu'on assistait à une partition de Alep, déjà, donc ça signifie pas forcément des belles heures à venir. Voilà.
Donc la prise d'Alep ne signe absolument pas la fin de la guerre, on l'a bien compris. Alors, juste, vous êtes logé, si je ne m'abuse, chez les jésuites, c'est bien ça?
Tout à fait.
Alors justement, j'imagine que vous côtoyez les chrétiens qui sont restés à Alep. Beaucoup sont partis, mais il y en a qui sont restés. Quel est un peu l'état d'esprit, on va dire, à l'approche de Noël?
Noël se prépare un petit peu. On voit des sapins qui poussent un peu partout, des guirlandes, etc. Voilà, les gens essayent de préparer quand même Noël. Et les gens fêtaient Noël même pendant toutes les années précédentes. Voilà, après, bon, les gens sont pris quand même dans leur quotidien. Hein. Je vous dis le gazole, faire chauffer la maison, manger tous les jours. J'ai posé la question à quelques Alepins, justement, ce que Noël signifiait pour eux. Là, certains me parlaient de résurrection dans tous les sens du terme. Donc là, par exemple, j'étais avec l'évêque maronite Monseigneur Tobji, dont l'unique église, la cathédrale, en fait, a été complètement démolie. Le toit est ouvert et ils vont célébrer Noël dans les ruines de la cathédrale. Ils vont installer une crèche, ils vont célébrer Noël à l'intérieur. Donc voilà, il y a des symboles forts qui vont se mettre en place pour Noël, pour Alep.